Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En novembre 1975, Patrice Galbaud recevait Simone Iff, présidente du Mouvement français pour le planning familial, pour une discussion consacrée à la famille et à ses mutations contemporaines. Réunies autour d'elle, quatre personnalités ayant récemment collaboré à un numéro de la revue Autrement consacré à ce sujet. Henri Dougier, fondateur de cette revue et des futures éditions Autrement, l'anthropologue Françoise Héritier, l'historien André Burguière et le sociologue Gérard Mauger. Nous étions alors quelques mois après l'adoption de la loi Veil dépénalisant l'avortement et 3 ans seulement après l'entrée en vigueur de la loi Neuwirth autorisant la pilule, votée en 1967, mais dont les décrets de mise en application ne furent adoptés qu'en 1972. La maîtrise de la fécondité était donc alors un phénomène encore tout nouveau. Si l'on célèbre aujourd'hui en France presque moitié moins de mariages que dans les années 70, et si l'on mesure, à l'écoute de ces échanges, la distance qui nous sépare de cette époque, ce qui frappe pourtant, c'est à quel point certaines des analyses développées ici restent pertinentes et nécessaires aujourd'hui. Ainsi, lorsque Françoise Héritier, disparue en 2017, rappelle cette vérité simple, hélas toujours non évidente, que l'instinct maternel n'existe pas et qu'il est, je cite, une invention pour la mise en servage d'une partie de l'humanité. Rencontre avec Simone Iff, par Patrice Galbaud, première diffusion sur France Culture le 16 novembre 1975.
Autour de Simone Iff, présidente du planning familial, j'ai réuni 4 personnes aujourd'hui, 4 spécialistes. Il y a là Françoise Héritier, André Burguière, Gérard Mauger et Henri Dougier. Ils vont parler évidemment de la famille. La famille existe-t-elle encore? Quel est l'avenir de la famille? La famille est-elle finie? La famille va-t-elle bien? Va-t-elle mal? Que pensent les enfants de la famille? Qu'en pensent les parents, etc.? Il y a tellement de questions qu'en une heure, c'est peut-être un petit peu court pour répondre à tout. Enfin, on va bien voir. Et je voudrais demander d'abord à Henri Dougier, qui dirige la revue Autrement, de présenter mes invités d'aujourd'hui, parce qu'il les connaît très bien.
Bon, je crois présenter Simone Iff est exclu, puisque le planning familial est très connu. C'est un mouvement qui a milité depuis de nombreuses années et qui est connu, je pense, de tous les auditeurs. Parmi les 3 invités de Simone Iff, tout d'abord Françoise Héritier, qui est chargée de recherche au CNRS et qui fait partie du laboratoire d'anthropologie sociale de Lévi-Strauss. Elle est spécialisée dans les questions africaines. André Burguière est historien. Il a été collaborateur pendant de nombreuses années d'une revue célèbre qui est la revue des Annales, du groupe des Annales. Il est actuellement maître assistant à l'école des hautes études en sciences sociales et s'intéresse tout particulièrement aux problèmes démographiques et aux problèmes du mariage. Gérard Mauger est à la fois sociologue, marginal, spécialiste de la marginalité, etc. et attaché de recherche au CNRS. Et dirige depuis plusieurs années une équipe d'enquêteurs, de chercheurs, sur les problèmes de la marginalité dans le domaine de l'éducation, de la médecine, etc. Je dois dire qu'il collabore étroitement à la revue Autrement et qu'il a été une des chevilles ouvrières de ce numéro épais et lourd.
Et vous, Henri Dougier, qui êtes-vous?
Alors moi, je ne suis surtout pas un spécialiste. Ni maître assistant, ni attaché de recherche. Je m'occupe donc de cette revue Autrement, qui essaye d'apporter sa pierre à la compréhension de l'évolution de la société contemporaine, en France et ailleurs, en étudiant tel ou tel problème qui reflète un changement dans les mentalités, dans les comportements, sans grille académique ou sans grille idéologique, bien sûr. Avant de passer la parole à Simone Iff, qui va animer le débat, j'aurais voulu dire quelques mots sur les objectifs de ce numéro d'Autrement et la méthode que nous avons suivie et adoptée. L'objectif, c'était de regarder la mutation de la famille contemporaine en France, non pas en suivant une approche fonctionnaliste, en regardant par exemple les 4 grands rôles de la famille, reproduction des enfants, socialisation des enfants, lieu affectif de relations entre adultes, ou rôle économique de la famille. Nous n'avons pas non plus voulu suivre un plan par classe sociale,
ou par strate géographique, qui aurait été trop difficile, nous avons essayé de rassembler toute une série d'enquêtes, de recherches, de témoignages, souvent inédits, dans différentes zones urbaines ou rurales, dans différents milieux sociaux, en respectant la formule qui est celle de la revue habituellement, qui est d'une part de présenter un dossier le plus concret possible, et ensuite de faire lire ce dossier par un ensemble de spécialistes, entre guillemets, qui sont anthropologues, historiens, sociologues, etc. Parmi ces spécialistes, les invités d'aujourd'hui, dont je rappelle les noms rapidement, Simone Yves, donc présidente du planning familial, qui est une femme d'action, et puis trois observateurs qui sont anthropologues, historiens et sociologues, et auxquels je laisse maintenant la parole.
Les problèmes pour moi qui émergent dans la pratique des animateurs, c'est les jeunes hésitent de plus en plus devant le mariage parce que dans un premier temps, ils n'y sont pas contraints. La première contrainte, c'est la cohabitation pour des raisons économiques. Mais pas forcément le mariage. On vit à deux, on vit en communauté, on vit avec des amis, on n'est pas obligé de se marier. On est seulement obligé de cohabiter. Puis, quand les enfants arrivent, là, on est obligé de se marier. Si on a décidé d'avoir un enfant, finalement, la contrainte morale et la contrainte légale poussent au mariage. Une autre des raisons pour fonder une famille, c'est bien souvent d'échapper à l'autorité parentale. Et alors, très vite, on se sent piégé. Parce que le poids des modèles est plus fort que l'aspiration profonde qui était le rejet justement de l'autorité. Et on s'aperçoit aussi que finalement ce sont surtout les femmes qui ne peuvent plus, mais qui surtout ne veulent plus jouer le rôle qui leur a été traditionnellement assigné et qui ne correspond plus à leur fonction de reproductrice et à leur fonction économique. Donc, notre pratique nous montre bien que les gens sont pas bien dans leur famille. Donc, il y a crise. Et j'aimerais que, spécialement, peut-être, Françoise Héritier nous dise comment elle peut définir enfin, cette crise de la famille par rapport à ce que vous aviez étudié ailleurs. André Burrière, par rapport à ce qu'il a étudié hier. Gérard Moget, par rapport à ce qu'il étudie maintenant, et qu'on essaie de voir, mais au fond, qui est-ce qui est responsable de cette crise de la famille, d'après vous, d'après vos études? Est-ce que c'est immuable? Enfin, est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une rupture? Qu'est-ce qui est responsable?
Je voudrais dire tout d'abord que il faut s'entendre sur la définition du mot « famille ». Parce que pour un anthropologue, si vous voulez, la famille a d'abord deux sens. C'est la famille conjugale, qui est effectivement le modèle répandu dans le monde entier, passé ailleurs, comme vous dites, et actuel. Même dans les sociétés que l'on dit polygames, il reste que le modèle matrimonial conjugal de la famille monogame est celui qui est le plus fréquemment représenté. Ceci, c'est un type de famille. Le deuxième ordre de famille, c'est la famille, disons que par un terme que même les historiens reprennent, que l'on appelle la famille étendue. Je l'appellerais plutôt, moi, le groupe de descendance, le groupe de descendance lignagée. Et les rapports entre ces deux types de familles obéissent à des lois qui sont des lois de structure et que l'on trouve partout, dans toutes les régions du monde, dans toutes les époques. Une première loi de structure, c'est que les rapports que l'on a avec sa famille lignagère et les rapports que l'on a avec sa famille conjugale, c'est-à-dire dans le rapport matrimonial entre deux individus, varient littéralement en sens inverse. À partir du moment où, pour les femmes, je dois dire d'ailleurs très généralement, et pas pour les hommes, parce que pour les hommes, il est facile, disons, de s'insérer dans un modèle constant qui fait marcher de pair l'appartenance à une famille lignagère et l'appartenance à une famille conjugale. C'est pour les femmes que le divorce et la distorsion s'ensuit. Bon, le modèle le plus fréquemment réalisé, et c'est celui que nous connaissons, ce sont les modèles qu'on appelle de filiation patrilinéaire, c'est-à-dire ceux où la transmission du nom, d'une part, de l'héritage, de la filiation, se fait par les hommes. Dans les sociétés patrilinéaires, comme la nôtre, la femme est toujours coupée de sa famille d'origine. Et donc, elle est mise dans la dépendance totale de la famille conjugale. Ce que l'on observe dans d'autres sociétés, c'est que selon le choix qui est fait par une société, soit d'insister sur le rapport de filiation, soit d'insister sur le rapport conjugal, il y a toujours un perdant et un gagnant, dans des mesures variables évidemment. Si on privilégie les liens de filiation, souffre le rapport conjugal. C'est-à-dire en cas de conflit entre deux ordres d'allégeance, les gens choisiront leur rapport de filiation et les femmes, par exemple, quitteront leur mari pour suivre l'autorité de leur père. Inversement, dans les sociétés qui priment le rapport conjugal, ce qui est le cas chez nous, où la femme est séparée de sa famille d'origine pour aller rejoindre la famille de son mari et créer une famille conjugale, à ce moment-là, le rapport de filiation se distend. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, la solution du conflit passera au privilège, à l'avantage de la famille conjugale. Actuellement, dans cette contestation proprement féminine de l'autorité masculine et dont le siège est particulièrement dans la famille conjugale, c'est là le véritable bastion, eh bien à ce moment-là, si les femmes refusent le rapport autoritaire conjugal, il y a une tendance à se retrouver dans la famille linéaire, dans la famille patrilinéaire. C'est ce que montrent un certain nombre de textes dans ce dossier et qui font état notamment de ce que moi j'appelle, en termes anthropologiques, la solidarité mère-fille. Car la soupape de sûreté pour les femmes dans ce type de société, c'est que ces sociétés encouragent, si vous voulez, un rapport de solidarité entre femmes, entre mère-fille d'une part et entre parentes ayant un rapport proprement utérin. Donc entre les sœurs, entre la mère et la fille. À l'heure actuelle, le fait que la famille conjugale soit en crise n'implique pas que toutes les formes de famille soient en crise. Cela veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a une certaine tendance à reconstituer des aires familiales qui sont davantage branchées sur la filiation que sur l'alliance.
Cette solidarité mère-fille, moi je l'analyserais comme une solidarité des exploités. Et donc, je voudrais demander à l'historien si tout de même la dépendance qu'ont subi les femmes dans la famille, elles sont en liaison avec des facteurs économiques qui faisaient que le système était absolument obligatoire d'une interdépendance mâle-femelle pour la survie économique de l'espèce. Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui est remis en cause ? Est-il absolument indispensable à l'homme d'avoir une femme et à la femme d'avoir un homme ?
Avec le maximum de fréquence dans un état de dépendance. À part ça, son histoire n'est pas une histoire parfaitement, disons, immobile. Il y a eu des périodes où elle a été plus libre et il y a eu des périodes de régression. Il ne faudrait surtout pas considérer cette histoire comme une sorte de progression, soit d'immobilité complète, soit de progression linéaire. Et je voudrais d'ailleurs... à ce sujet, reprendre l'ensemble et la notion même de crise de famille, puisque c'était la première question que vous posiez. Est-ce que vous connaissez des périodes où il n'y a pas de crise ? Et la crise, même à la limite, je dirais, c'est une chose excellente. L'histoire n'avance que par crise. Et maintenant, la seule différence, c'est que nous sommes particulièrement sensibles, c'est que nous crisifions tous les problèmes. Que la famille soit en crise, qu'il y ait des aspects... de l'institution familiale, de son fonctionnement, qui sont remis en cause aujourd'hui, c'est indéniable. Que cette crise, la menace de mort, c'est absolument faux, à mon avis. Et à l'inverse, il me semble que si elle devient en crise, c'est parce qu'elle est plus forte que jamais et qu'elle aboutit à un seuil d'intolérance. Alors pour revenir au problème de la femme, dans notre société, la femme est depuis très longtemps, effectivement, dans son statut, dans les stéréotypes, dans une situation de dépendance. Mais la famille... telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une forme relativement récente. Et c'est vrai, je ne sais pas s'il faut dire si ça a été fabriqué par le capitalisme, en tout cas, disons, par la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je dirais que ça a été fabriqué par l'État, surtout, par la modernisation. Ça a été un moyen d'arracher le groupe familial qui était beaucoup plus immergé dans un environnement local, dans ce qui était d'ailleurs... Et là, je ferai un peu écho à ce que disait Françoise d'Héritier, ce qui n'était pas uniquement la famille, qui pouvait être la parentèle, qui pouvait être les voisins. En fait, la famille proprement biologique, unie par des liens à la fois affectifs, biologiques, économiques, tels que nous le connaissons aujourd'hui, petite, extrêmement concentrée, était noyée dans un ensemble plus large, qui donnait une impression justement de famille étendue, alors que la famille étendue n'a jamais existé de manière aussi générale. Or, pour cette famille très réduite, très étroite... dans laquelle nous vivons, papa, maman, les enfants, en gros, qui a été en partie fabriquée par une réglementation plus étroite du mariage, par une intervention de l'État qui a isolé ce groupe pour ce qui était, l'enregistrement, la réglementation, par exemple, des conflits, les systèmes de succession de son milieu environnant. Ça a été de pair avec un antiféminisme extrêmement fort. Curieusement, cet antiféminisme, l'Église était depuis longtemps, puisque le droit canonique réglait une grande partie des problèmes religieux, avait un vieux fond antiféministe. Mais il y a eu surenchère sur l'antiféminisme religieux. Et le passage des problèmes de la famille, de la juridiction d'Église, tel que c'était le cas en gros jusqu'à la Renaissance, à la juridiction civile, au droit civil, a renforcé considérablement l'autorité paternelle. L'idée, c'est que la famille, c'est l'archétype de la société. Le père est le souverain, comme le souverain est souverain de l'État. Et la femme, un homme comme Potier, par exemple, un juriste célèbre de la fin du XVIIIe le dit, elle obéit au mari comme un subalterne obéit à son maître. C'est aussi simple que ça. Et la Révolution française a confirmé ce... Le droit civil est parfaitement héritier de cet antiféminisme dont nous commençons à sortir aujourd'hui. Alors là, effectivement, il y a une remise en cause qui est admise dans la mesure où c'était une formule provisoire, c'était quelque chose qu'il fallait pour justement donner à la famille sa cohésion, son rendement, sa stabilité qui était réclamée par la société. De ce point de vue-là, il y a actuellement au moins une volonté de respirer qui fait que les choses sont remises en cause.
Il n'y a pas de modèle unique quand même.
Il n'y a pas de modèle unique. Mais rien n'est simple, si vous voulez, dans la mesure où, d'une manière souterraine, aujourd'hui, les femmes luttent ouvertement, et même le mouvement me semble impressionnant, plus qu'il n'a jamais été. Il y a déjà eu des mouvements féministes. C'est une histoire en partie spasmodique. Il y a des périodes plus féministes, il y a des périodes très antiféministes. La fin du XVe siècle, la sorcellerie, c'est la chasse aux sorcières. C'est typiquement alors une réaction à la fois cléricale et masculine, une réaction antiféministe contre une période qui a dû faire une place avant plus importante à la femme. Mais même dans la période, disons, où se renforce, du point de vue du droit, l'autorité du mari, il y a eu en France une sorte de lutte occulte de la femme pour son émancipation et qui, vous, Simone, vous concerne directement. Oui. C'est elle qui a introduit en France très tôt le contrôle des naissances. Le rôle de la femme dans ce premier contrôle des naissances qui n'était pas la pilule, certes, mais des méthodes plus rudimentaires, plus frustrantes sur le plan sexuel, comme le coït interrompu, et où la France a une avance considérable, on le constate sur les courbes démographiques. Elle est déjà un pays qui contrôle ses naissances pratiquement à la Révolution française. Là, le rôle de la femme était très important. Les prêtres le reconnaissent, les textes du XVIIIe le disent, ils reprochent aux hommes de trop céder à la sensibilité, aux demandes de la femme. Et là, je veux dire, c'est une sorte de lutte pas inconsciente du tout, mais inorganisée, souterraine, qui fait que la femme ne s'est jamais estimée complètement vaincue, je veux dire, dans cette situation de dépendance. Hein, et qui a préparé, je veux dire, aujourd'hui un mouvement plus ouvert, qui a des formes évidemment complètement différentes.
Hein. Oui, je pense vraiment que la situation maintenant de la lutte des femmes, elle est irréversible. Mais il me semble que... on ne peut plus l'analyser comme une évolution, mais comme une rupture, car il y a un phénomène nouveau de notre époque, enfin, par rapport à une époque historique, c'est la maîtrise de la fécondité, par des moyens qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'au fond, ce rôle de reproductrice qu'était obligée d'avoir la femme pour la survie de l'espèce, maintenant, c'est fini. On est devant quelque chose de nouveau, la valorisation de la maternité, c'est fini, puisque ça devient la parenté responsable. Enfin, c'est fini... quand notre travail de tous les jours sera un peu plus avancé. Je crois que Françoise voulait parler.
Oui, je ne parlerai pas à proprement parler d'antiféminisme comme spécifique à notre société capitaliste, moderne, enfin historique ou moderne, comme vous le dites,
bourgeoise.
Oui. Je ne parlerai pas d'ailleurs à proprement parler d'antiféministe, je ne sais pas quel est le concept qu'il faudrait dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes les sociétés et dans tous les modèles qui existent, la femme a toujours été en dépendance. Et si elle est en dépendance, même dans les sociétés matrilinéaires,
oui,
en général,
les
sociétés matrilinéaires sont des sociétés où la femme a le pouvoir. C'est pas vrai, simplement ce n'est pas le mari qui a le pouvoir, ce n'est pas le père qui a le pouvoir, c'est l'oncle maternel qui a le pouvoir. Mais sont toujours les hommes et les frères sont toujours les hommes qui ont le pouvoir. Ce ne sont jamais les femmes, même dans les sociétés matrilinéaires. Et le matriarcat n'a jamais existé. Ceci est un point annexe. Mais ce qui est important là-dedans, ce n'est pas le contrôle des forces de production, c'est le contrôle des forces de reproduction. Oui. Les femmes ont toujours été mises sous le boisseau, car ce qui importait pour la société, c'est que la reproduction ne soit pas simplement le fait féminin. Il fallait que les hommes en aient le contrôle.
Mais c'est fini ça aujourd'hui.
Et c'est fini, ça, enfin c'est fini.
Nous
ça,
avons,
ça
je crois que
ça n'est pas encore si, fini.
Non, encore que ça, le contrôle
ça peut être fini, c'est-à-dire que je pense que actuellement les femmes ont le pouvoir fondamental de toute société, c'est celui de la faire survivre ou non. Elles ont le moyen technique de l'avoir, ce pouvoir. Elles ne s'en servent pas.
Mais vous savez, entre la maîtrise des moyens, le fait l'apparition d'une technique et son acceptation par les gens, il peut y avoir une longue période. Vous êtes bien placé pour le savoir.
Ah oui.
Une très longue période.
Le pourcentage des femmes qui utilisent, par exemple, la pilule actuellement, c'est de combien, Simone? 2 millions sur 11
Oui, mais enfin, c'est là que le problème, enfin, je pense, actuel est intéressant à analyser. Parce que qui est-ce qui a le pouvoir des mass médias? Qui est-ce qui a le pouvoir des laboratoires? Qui est-ce qui a le pouvoir? Ce ne sont pas encore les femmes.
Non, ce sont toujours
les femmes.
Ce sont toujours les hommes.
Mais même en ce qui concerne donc ce droit sur la reproduction, qui est un droit purement et simplement masculin, il faut aussi dire que ce soit notre société bourgeoise, capitaliste ou n'importe quelle autre société, la reproduction n'a jamais été considérée comme quelque chose à quoi l'État ou la société devait porter attention. Je veux dire, la reproduction est laissée uniquement, purement et simplement, à la charge des femmes, que ce soit naturellement la charge biologique de porter les enfants, de les mettre au monde, mais ensuite toute la charge qui correspond à leur éducation et à leur mener jusqu'à l'âge adulte et à leur fonction de producteur ou de reproducteur. Ce sont uniquement les femmes qui s'en chargent et dans toutes les sociétés, elles sont limitées à cette fonction et dans notre société encore maintenant, elles sont pénalisées à cause de cette fonction.
Pénalisées moralement parce qu'on
pénalisées moralement et pratiquement. Pénalisées moralement et pratiquement. La plupart des femmes se retirent du monde du travail à partir du moment où elles ont plusieurs enfants parce qu'elles n'ont pas la possibilité à la fois de tenir leur intérieur et l'éducation des enfants et en même temps d'avoir une activité salariée. Enfin, c'est un cas, c'est classique, y compris dans notre société, simplement parce qu'il est entendu comme une chose allant de soi et comme une chose de nature que la charge des enfants, l'éducation des enfants, incombe uniquement aux femmes.
D'ailleurs, dans ce dossier, on retrouve le mot, plusieurs fois, le mot instinct maternel. Oui. Et dans le témoignage de cette mère célibataire volontaire qui admet elle-même qu'elle n'a pas l'instinct maternel, entre guillemets, et dans le témoignage du couple non traditionnel, mais c'est extrêmement choquant. C'est un tabou. On n'accepte pas qu'une femme n'ait pas l'instinct maternel.
Mais l'instinct maternel, en fait, ça n'existe pas. Il existe l'instinct sexuel de reproduction, il existe le sens des responsabilités que tout adulte doit avoir en face d'un nouveau-né, enfin d'une personne faible et fragile. Il existe l'amour maternel qui se développe dans les rapports. Mais l'instinct maternel, c'est une invention de nos sociétés
pour nous culpabiliser
les femmes. Parce qu'à ce moment-là, c'est repris comme une chose naturelle. Ça va de soi, puisque je suis mère, que je dois me consacrer uniquement à mes enfants. L'instinct maternel, c'est une invention pour la mise en servage d'une partie de l'humanité, uniquement parce qu'il faut contrôler socialement les forces de reproduction.
C'est comme ça aussi que...
Gérard, qu'est-ce que tu vois, toi, dans les milieux communes et autres que tu rencontres
Qui dit jeunesse marginale et qui dit famille en même temps, pense, dans la minute qui suit, communauté comme nouvelle forme de famille. Est-ce que c'est là, à la fois, le symptôme d'une crise de la famille telle que nous la connaissons, telle que la définissait Françoise Héritier tout à l'heure, et est-ce qu'elle est, au-delà d'un symptôme de crise, même l'amorce, l'ébauche dans une pratique sociale nouvelle d'un nouveau type de famille? D'abord, je ne pense pas que, pour leur majeure partie, les communautés procèdent très directement d'une crise de la famille. Mais là encore, il faut faire une distinction. Elles n'en procèdent pas directement d'une crise de la famille, d'abord parce que, pour l'essentiel, à mon sens, les communautés, et ce mouvement communautaire, en France en tout cas, procèdent essentiellement d'un refus du travail salarié. C'est un aspect qui me semble tout à fait essentiel. Refus du travail salarié qu'on trouve à la fois chez ces jeunes ouvriers, où c'est sans doute un aspect tout à fait moteur, dans cette jeunesse intellectuelle, refus d'un travail salarié qui n'est pas exactement le même, bien sûr, puisque c'est le refus d'un autre travail salarié, d'une autre position dans la division du travail, qui correspond plus, à mon sens, à un refus de prolétarisation possible ou envisagé comme proche par rapport à une insertion dans les cadres du travail salarié. Alors, parlons maintenant de la famille. de la famille par rapport d'abord à ces jeunes ouvriers dont je disais, vivre en communauté, pour eux, c'est d'abord refus du travail salarié. Mais c'est, si c'est refus du travail salarié, c'est aussi très directement refus de la famille ouvrière. En ce sens que pour tous, ou du moins dans leur esprit, et je pense aussi dans la réalité, le refus du travail salarié, c'est aussi nécessairement le refus de la famille ouvrière traditionnelle. L'un d'eux me l'a expliqué très bien, je ressors cette formule très souvent parce qu'elle me semble extrêmement frappante, où il explique que s'il va travailler, s'il va à l'usine, eh bien bon, il voit déjà retracer devant lui toute la carrière de son père, ce qu'il appelle la carrière de prolo HLM. Le prolo et le HLM. Le HLM, la famille, le prolo, le travail. Prolo HLM, c'est-à-dire... je vais travailler, alors je me marie, et puis pour me marier, il faut avoir un appartement, il faut mettre du Léviton dedans, il faut avoir une voiture pour pouvoir sortir, etc. Alors c'est les traites, etc., les heures supplémentaires pour payer les traites, et comme ça jusqu'à la retraite, et là, à 60 ans, pof, je meurs terminé, comme mon père, tout droit au cimetière. Dans ce refus qui est au point de départ de ce qu'on appelle les loubards, ça en est une variante, mais aussi ces jeunes prolos qui font la route et qu'on trouve dans les communautés, qui sont une partie importante même dans ce mouvement communautaire, il y a ce que je voudrais dire, c'est cet aspect très très lié de refus du travail, refus de la famille, et qui montre très, très fortement comment la trajectoire ouvrière, la carrière de prolo HLM en question, est faite très très fortement de ces deux variables qui, l'une, vous enchaîne à l'autre, le travail vous enchaînant à la famille vous enchaînant au travail. Et comment, en fait, le refus de l'un ne peut qu'être refus de toute la carrière de prolo HLM en question. Quant aux formes à inventer d'une nouvelle famille pour ces jeunes en question, il faudra en reparler concrètement et signaler un fait qui me semble important, c'est que ce refus de la carrière ouvrière pour les jeunes ouvriers, est un refus des garçons, des femmes très très peu, des filles très très peu, pour des raisons que je pourrais expliquer, mais ce serait trop long, alors laissons ça pour le moment.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les nouveaux rapports, est-ce qu'il y a des nouveaux rapports hommes-femmes? Est-ce qu'ils arrivent à échapper, disons, aux couples traditionnels, à la jalousie traditionnelle, bref, oui, à l'instinct de possession, etc., des deux?
Alors, là, ça me renvoie à l'autre aspect, parce que, comment dire, quand je parlais de ces jeunes ouvriers dont je parlais que momentanément, parce que c'est sans doute le cas le plus difficile, et où aussi, de toute façon, les réalisations communautaires sont les plus difficiles, pour des raisons matérielles, financières, simples. Créer une communauté, ça demande un certain nombre d'investissements minimaux que ne peuvent pas réaliser les jeunes ouvriers en question. Donc, inventer de nouveaux rapports hommes-femmes, il faudra encore que ce soit possible, c'est-à-dire pouvoir créer une communauté, et d'autre part qu'il y ait des filles de milieu ouvrier. Il n'y en a pas, ou peu. Donc, il y aurait problème de ce côté-là. Alors, évacuons-le pour parler de l'aspect dominant, de toute évidence, de ce mouvement communautaire, qui est celui de la jeunesse intellectuelle en question. Alors, dans ce mouvement communautaire qui est fait, bon, donc, pour l'essentiel de ce type de population, je pense que là encore, il y a deux aspects. Celui que j'ai dit tout à l'heure, qui était refus de prolétarisation, refus du travail salarié, mais pas toujours. Il y a deux cas, en gros, de communautés. Il y a les communautés qui sont créées par ceux qui refusent de travail et qui donc vont créer des communautés rurales, agricoles ou artisanales, où l'axe principal est donc ce refus du travail, et un autre type de communauté qui est celui dont j'essaierai de parler plus longuement, dont je vais parler dans autrement, qui sont les communautés où le point de départ est une certaine crise de la famille. Une crise de la famille initiale des gens en question, sans remettre pour autant en cause d'ailleurs nécessairement leur travail salarié. Donc des gens dont la seule déviance, si on peut dire, par rapport à la carrière de petits bourgeois intellectuels qui leur était prévue, est une déviance par rapport à la famille. Alors, dans ce type-là de communauté, c'est-à-dire qui sont essentiellement souvent des communautés urbaines, c'est-à-dire où les gens continuent à travailler, qu'est-ce qui se passe? Ce qui me semble être la situation archétypale qui préside à la création d'une communauté crise de la famille, c'est une situation extrêmement classique, je pense pas neuve non plus, enfin, l'historien m'en dira un mot tout à l'heure, c'est la situation du ménage à quatre. Je pense que c'est vraiment la configuration typique qui préside à la création d'une communauté. Il y a la façon du vaudeville, de vivre le ménage à quatre, et puis il y a la façon communautaire, si on veut pas dire des choses assez simples. Alors, dans le premier point de mon exposé, comment se crée spécifiquement cette situation de ménage à quatre qui va déboucher sur une situation communautaire? Là, je ferai chorus avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le rôle des femmes, dans cette fraction-là de la population, me semble tout à fait essentiel. Le rôle de ces intellectuels de la petite bourgeoisie me semble être tout à fait capital. Par deux aspects, un qui a été dit et l'autre qui ne l'a pas été. Moi, je ne l'ai pas relevé. L'aspect, effectivement, comment dire, possibilités d'émancipation par rapport à la sexualité qu'ont créé les moyens nouveaux de contraception, etc. L'autre aspect qui est le travail. C'est ce qui me semble aussi tout à fait essentiel. Les études et le travail. Alors ça me semble tout à fait essentiel. Le travail même étant peut-être la variable primordiale en l'occurrence. Je parlais de vaudeville tout à l'heure, on pourrait parler de Feydeau, et ça me semble intéressant au sens que, à mon avis, il retrace assez bien ce qu'a été l'archétype de la femme de la bourgeoisie et de la jeune fille bourgeoise de son époque, qui n'est pas si circulée, un siècle tout au plus. Quand bien même une jeune fille de milieu bourgeois faisait des études, de toute façon, ces études ne devaient lui servir à rien. Il était entendu que ça se limitait, c'est même si ça allait, si ça allait un peu au-delà de la broderie et de la tapisserie, c'était de toute façon pour faire bien et surtout ne pas s'en servir. Alors je pense qu'il y a un phénomène essentiel, c'est qu'un certain, toute une frange de population, de femmes, est entrée dans le circuit de l'école et de l'université avec d'autres perspectives que strictement comment dire, de mariage ou de rôle d'épouse. Bon, c'est un premier point qui me semble important. Qui, d'une certaine façon, acquiert dans ce milieu une égalité de formation par rapport aux hommes. La revendication seconde, par rapport à cet homme qui peut-être deviendra un époux ou un ami ou un concubin, etc., c'est que, étant entendu qu'il y a cette formation égale, d'avoir un rôle social égal et un rôle social autonome. C'est ce qui me semble aussi tout à fait important, c'est rôle social égal, mais aussi non directement lié, et là aussi il y a rupture par rapport à la situation que pouvait décrire Feydeau, recherche d'un ensemble de relations sociales autonomes par rapport à l'époux ou à l'homme, disons. La suite, pour en venir à mon ménage à quatre, c'est que je pense que, comment dire, la forme spécifique que peut revêtir l'adultère dans ces conditions-là est un adultère déclaration d'indépendance. Disons, au sens où l'adultère peut être, je l'interprète comme ayant la signification de, comment dire, de l'acte de déclaration d'indépendance et d'autonomie par rapport à cet homme essentiel. Avec, à mon avis, émergence de deux règles qui vont donner une configuration spécifique à ce ménage à quatre, qui est d'abord la règle du dire, à la règle du mensonge qui est essentielle dans Feydeau. Surtout, on ne dit rien, mais si c'est déclaration d'indépendance, pour que ce soit une, il faut le dire. Alors on dit, ça me semble une première chose qui est essentielle. La deuxième, c'est donc cette règle du dire et de la règle de transparence
qui veut dire
des rapports.
On ne se trompe pas si on se le dit.
Voilà, ça c'est un premier point qui me semble essentiel. La deuxième, c'est aussi la règle de la non-jalousie. Alors que la jalousie était la réaction normale, valorisée même, celle de l'honneur, se substitue une nouvelle réaction où on valorise l'homme libéré ou la femme libérée qui doit dire et assumer, oui, qui doit être capable de vivre. Donc, on crée une nouvelle situation d'adultère où on essaie de mettre en place de la transparence et de la non-jalousie.
Ça ne me paraît pas si facile de renoncer à la propriété privée, surtout pour les hommes et, par rapport, et pour les femmes, par rapport à l'image de la femme objet qui nous est proposée.
Alors, ce que je veux dire, c'est que...
Un certain snobisme de gauche, de dire... surtout...
Nous, on les voit après au planning, venir, c'est pas forcément...
Ce que je veux dire, c'est que... Comment dire ? Ce que j'essayais de décrire, c'était la situation qui allait donner la situation nouvelle communautaire. Alors, ce que ça dure... ce que ça vit, en quoi s'élabore à ce moment-là un mode de vie différent du mode familial vivable, mon Dieu, la connaissance que j'en ai montre que, de fait, c'est le genre d'expérience qui dure assez peu, ou qui a bien de la peine à subsister. La seule façon qu'avait trouvé une communauté affrontée à ce type de problème pour les résoudre a été d'établir un tableau ou de rotation sexuelle obligatoire, ou comme pour la vaisselle et les travaux ménagers, on avait institué
une règle pour instituer la liberté.
Et oui, qui évacuait le problème, ou du moins qui réglait le problème une fois pour toutes.
Il y avait une petite communauté qui existait avant la commune, et dans laquelle, d'ailleurs, dont Varlin a fait partie, qui s'appelait la Marmite, et qui avait exactement le même système. C'était la rotation des... c'était plutôt les femmes qui dirigeaient ça. Il y avait une femme, d'ailleurs, avec une forte personnalité, et qui faisait tourner les hommes, comme ça. D'ailleurs, c'était une communauté prolétaire, à l'époque, d'ailleurs, où il y a eu une partie du mouvement ouvrier qui essayait de vivre l'utopie d'une famille non bourgeoise. Ouais. Enfin, j'aimerais revenir, d'ailleurs, là-dessus. Et ils avaient imaginé un système de ce genre. Et j'aimerais revenir sur deux ou trois points à propos de ce que vient de dire Gérard Mauger. D'abord, sur cette crise, fin de la jalousie, etc., disons, je ne dis pas que c'est une péripétie complète, ça peut être quelque chose dont le modèle peut rejaillir sur l'ensemble de la société. Ça me semble quand même très circonscrit. toujours à ce milieu qui n'est pas, qui donne pas le ton à l'ensemble, mais dont on surestime un peu l'importance, qui est une partie de, disons, de la classe bourgeoise. Et on a déjà connu ça au XIXe siècle. Il y a eu aussi, Georges Sand, et c'est un épisode, la non-jalousie, l'indépendance. Enfin, il y a un phénomène de va-et-vient qui prend plus ou moins, en général, qui ne prend pas sur l'ensemble de la société, qui fait partie un peu des péripéties, comme ça, d'une classe qui est beaucoup plus en représentation, si vous voulez. Mais pour le reste, j'ai été très intéressé par le mouvement de rejet de la famille ouvrière actuelle. Or, il faut redire deux choses sur cette famille ouvrière. C'est que c'est une conquête bourgeoise parfaite. Car dans la première étape du prolétariat moderne au XIXe siècle, la classe ouvrière que Marx a connue, cette classe ouvrière vivait en grande partie en dehors de la famille. Sa particularité, c'était le concubinage, justement, qui était un phénomène récent, car les classes populaires, jusqu'alors, n'avaient jamais vécu dans le concubinage. C'était à la fois une forme de marginalité et de refus. Alors, les deux, si vous voulez. C'est-à-dire, ils étaient pas insérés par principe, c'était des immigrants, c'est l'équivalent des travailleurs immigrés aujourd'hui. Ils arrivaient dans une ville, ils n'étaient pas insérés, ils n'avaient pas de stabilité, ils changeaient d'emploi, d'endroit à chaque instant. Et puis il y avait quelque chose qui effectivement pouvait consolider leur marginalité par rapport à la famille bourgeoise et son système d'autorité, de dépendance de la femme par rapport à l'homme, c'est que la femme travaillait, effectivement. Elle travaillait, elle était même surexploitée par rapport à l'homme. Puis en fait, par la force de cette société nouvelle, disons, de la société bourgeoise en général, la classe ouvrière s'est en partie intégrée et elle a parfaitement intériorisé le modèle bourgeois, puisque d'ailleurs on parle de ma bourgeoise, hein, qui est devenue... l'a tellement bien intériorisé, c'est que cette famille, dont le principe maintenant est un principe de consommation, ce qui réunit la famille, c'est le fait qu'on consomme en famille. Vous voyez la publicité partout, c'est toujours la famille qui est le centre. Eh bien, le mode de consommation qui a été l'aspect le plus apparent d'élévation du niveau de vie est devenu une sorte de cache-tampon à l'aliénation. C'est à la fois ce qui entretient l'aliénation et ce qui en même temps donne l'impression d'une forme d'émancipation. Si bien que cette famille bourgeoise, qui à l'origine, dont le principe était plutôt le principe d'épargne, devient maintenant au contraire une famille fondée sur le principe de consommation. Et on peut toujours parler de famille bourgeoise si on veut, mais elle est le modèle absolument dominant de la classe ouvrière. Il y a eu, dans les minorités militantes, des volontés aussi utopiques, c'est là où l'utopie joue un rôle, d'essayer justement de résister à cette intégration. Le cas que je vais vous citer au moment de la Commune est caractéristique, mais c'est des choses qui, je veux dire, n'ont pas résisté au mouvement d'ensemble. Et c'est pourquoi je voudrais revenir à l'autre point qui est justement l'impact, le rôle des communautés. Je ne crois pas que ce soit négligeable. Les utopies, à toutes les époques, jouent un rôle très important. Mais le problème, c'est que l'utopie ne suffit jamais. Il faut qu'il y ait autre chose pour que ça accroche dans la société et que ça transforme les choses. Et cette autre chose, c'est une conjoncture sociale, c'est un état d'urgence. Il y a déjà eu des communautés. Je ne parle pas même de cette communauté familiale qui est un mythe. Mais il y a eu des périodes de regroupement. Des périodes, les frérèges décrites par le roi Ladurie au début du XVIe siècle, dans les périodes d'insécurité, dans le haut Moyen-Âge, il y a eu des phénomènes semblables. Mais qu'est-ce qui amène les gens à se regrouper dans des formes familiales plus larges, où on crée d'ailleurs des parentés artificielles? On s'affraire, exactement comme ces communautés qui se mettent à vivre ensemble alors qu'ils n'ont pas de parenté biologique. C'est la situation d'urgence, c'est le fait que c'est l'insécurité, c'est la défaillance de l'État qui ne garantit plus aux gens une autre forme d'insertion, la famille devient une bastille. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Ça, c'est possible. Je pense que, effectivement, certains aspects de la crise économique, le chômage, je pense aux États-Unis, l'insécurité, l'anomie qui se répand dans les villes, la rupture totale, oui, liée en même temps à un chômage ambiant, la rupture totale d'une relation sociale vivable, peut créer des conditions à ces types de regroupements. Mais il faut à ce moment-là voir que c'est un phénomène qui dépasse les communautés qui nous plaisent, disons, c'est-à-dire celles qui sont vraiment fondées sur l'utopie. C'est le retour à la non-société, avec la vendetta, avec les polices d'autodéfense. Ça aussi, ça fait partie du phénomène, justement, qui...
Un aspect un peu mafia, un aspect...
Qui surmonte, d'un circuit tribal. Pour ma part, je ne pense pas, sauf imprévu apocalyptique, sauf si la société sombre plus qu'elle ne... qu'elle ne sombre actuellement, puisque, bon, on pourrait assister à de tels regroupements. Sinon, il me semble que ces formes utopiques qui ont d'abord existé constamment, qui sont un peu le sel de la terre, ou des formes de compensation, les marginaux, vous savez, les jeunes marginaux, il y a eu des périodes où c'était très fort, très intense. Au début du XVIe siècle, les jeunes terrorisaient l'ensemble de la société. Le viol était, et les viols collectifs,
les
d'ailleurs,
écoliers,
assez fréquents, étaient des choses assez peu punies, parce que c'était tellement répandu que c'était quelque chose pratiquement d'autorisé, de permis.
Naturel.
Entre autres, il y avait une forme de délinquance sexuelle très importante, et la prostitution, puisqu'elle était, elle était très répandue, elle était institutionnelle, et ça, c'est, essentiellement, c'était les jeunes qui consommaient. C'était une chose admise pour justement maintenir une soupape de sûreté à une classe adolescente que la société n'arrivait pas à endiguer.
Oui, mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus positif à l'heure actuelle dans le phénomène des communautés, sur deux grands points. C'est celui de la remise en question de la propriété privée. Ces jeunes, au fond, obligent notre société à poser le problème différemment de la consommation, du système de propriété privée par rapport au corps de l'autre, mais par rapport aussi à ce que chacun a à soi. Et puis alors, pour moi, ce qui me paraît encore bien plus fondamental, c'est la remise en question de la retransmission des rôles. Moi, je connais un certain nombre de communautés de jeunes, de jeunes couples, qui se sont mis à vivre en communauté pour ces raisons, mais surtout pour dire que c'est la seule manière dont on va se dépiéger nous-mêmes par rapport entre notre pratique et notre théorie. En théorie, nous voulons élever nos garçons comme nos filles. Nous voulons leur donner des responsabilités. Mais si nous n'avons que notre modèle parental, hommes et femmes, nous allons forcément retransmettre ce contre quoi nous luttons. Donc, il y a quand même, quand il y aura peut-être trois images parentales mâles, quatre ou cinq femelles, il y a beaucoup plus de chances que l'enfant devienne ce qu'il est, hein, ce qu'il est profondément lui-même, plutôt que de devenir ce que la société veut qu'il soit en tant qu'homme et en tant que femme.
Je crois que le ferment principal qui peut pousser à la dissolution de la famille telle qu'on l'entend actuellement, c'est la suppression ou la modification de la répartition sexuelle des tâches. C'est là un des points absolument fondamentaux. Ce que vous disiez tout à l'heure à propos de ce jeune homme qui refuse de travailler en usine parce qu'il sait que s'il travaille en usine, à ce moment-là, il lui faudra se marier, avoir son appartement et créer une famille, ça correspond bien à cette idéologie qui est la nôtre de la répartition sexuelle des tâches. Ça veut dire que l'homme doit nourrir une famille. Mmh. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, perçu comme naturel par notre société. L'homme nourrit la famille, la femme entretient son mari et les enfants. C'est ce que j'appelle le contrat d'entretien mutuel, qui est en fait quelque chose qui a été inventé aux aubes de l'humanité pour pousser à l'institution matrimoniale. On pourrait faire une analyse, si vous voulez, de l'origine de la famille, mais enfin, ce n'est pas là le lieu. Mais je crois que c'est ça qui est fondamental dans notre société comme dans toutes, c'est la notion de répartition sexuelle des tâches. Or, celle qui existe chez nous, on a tendance là aussi à croire qu'elle est naturelle et que partout, il y a les rôles féminins et masculins sont également distribués. Ce n'est pas vrai. Ouais. Pour n'en prendre qu'un seul exemple tout à fait trivial et minuscule, dans des sociétés africaines, la couture qui, chez nous, est du ressort de la femme et du ressort de l'homme. Cela impliquait par exemple que dans une société africaine où j'ai travaillé, le fait que je recousais mes ourlets ou des boutons par exemple faisait qu'on me percevait comme ayant une activité masculine. Et l'accès, si vous voulez, à une certaine égalité commence par prendre ces franges de travaux qui sont ceux qui sont donnés aux minorités chez nous, si vous voulez. Donc c'est en Afrique que vous trouverez des tailleurs qui sont masculins, des dactylographes qui sont des hommes et non pas des femmes. C'est progressivement seulement que les femmes commencent à empiéter sur ce genre de statut.
C'est une très grosse question. Je crois que les Suédois,
la répartition sexuelle des tâches est quand encore une fois quelque chose d'absolument fondamental, et c'est à partir seulement du moment où les sociétés admettront que la reproduction est une tâche qui doit être valorisée au même titre que la production, et où d'autre part on fera sauter ce verrou qu'est la répartition sexuelle des tâches, que quelque chose changera.
Oui, alors là moi je suis tout à fait d'accord, et je pense à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans la revue, dans l'enquête des 16 ans, qui est absolument en corrélation avec notre pratique, c'est quand les jeunes disent « ce n'est pas tellement la famille qu'on remet en cause, c'est l'autorité qu'elle détient ». Et si vous voulez, c'est une des questions, moi que j'aurais aimé qu'on essaie d'aborder ensemble, si on a encore le temps, c'est est-ce qu'il est possible d'envisager donc des relations humaines égalitaires dès qu'il y a structure institutionnalisée ? Car au fond, il me semble que c'est plus ça actuellement, la crise de la famille, c'est est-ce qu'elle retransmet un système de hiérarchie, un système donc de dépendance d'autorité, qui va se retrouver au niveau après de l'usine, au niveau de la société. Donc, au fond, et je crois que les jeunes sont absolument tout à fait conscients de ça chaque fois qu'on les laisse parler. Ils ne remettent pas en cause le lien affectif de leurs parents, ils remettent que ce lien affectif donne un pouvoir. Alors, système relation égalitaire, est-ce de l'utopie? Mais je crois que c'est une utopie, enfin, ça c'est la question que je pose. Moi, je pense en tout cas que c'est une utopie pour laquelle j'ai envie de me battre, même si c'est une utopie. Mais alors, est-ce seulement une utopie?
Avoir les enquêtes ouais. dans ce numéro d'André Michel, oui. l'enquête qu'elle a pu faire en France,
c'est une utopie,
avoir le sondage dont nous faisons écho sur les jeunes, alors bien sûr de 9 à 11 ans, qui sont encore très imprégnés de la culture familiale, le résultat est étourdissant, enfin, effroyable. Oui. C'est vraiment le type de je bricolerai ouais. pendant qu'elle fera la cuisine, enfin l'enfant de 9 ans ou la petite fille de 11 ans reproduit mais strictement le modèle.
Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Le propre de l'idéologie, c'est d'être partagé par tous les membres de la communauté qui ont cette idéologie. Il n'est pas pensable que des enfants ou que des femmes fassent une contre-idéologie parce qu'elles ont été élevées dans l'idéologie dominante.
Oui, mais il me semble que, il me semble qu'il y a peut-être un espoir.
Elle bouge.
Parce que la famille va mal, mais l'État va bien. Mais
elle reste quand même dominante pendant un certain temps.
Mais je pense, on vient de dire, la famille va mal, l'État va bien.
Non, mais l'État prend peu à peu tout ce rôle éducatif à la famille pour pouvoir se maintenir.
Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut maintenir une famille forteresse, justement, qui monopolise les rôles sociaux? Alors, dans ce cas, effectivement, on pourrait penser que la tendance actuelle, c'est de vouloir de plus en plus rendre à la famille des fonctions, donc renforcer son pouvoir. Ou bien, si on entend, au contraire, la délester, c'est-à-dire créer une possibilité à la fois de vivre en famille et de s'intégrer à l'ensemble de la société, du corps social. Je ne pense pas qu'on puisse prendre exactement les choses comme ça. L'État, effectivement, la tendance de l'État, ça a été à la fois de consolider la famille comme une cellule réduite et de lui retirer une grande partie de ses pouvoirs. Sur l'avenir égalitaire, pourquoi pas? Nos sociétés se disent égalitaires, ceci dit, c'est loin d'être l'égalité complète.
Entre qui?
Il y a des tendances. Bon. Mais si l'on veut justement à la fois que la famille continue et qu'elle soit plus égalitaire, ça montre apparemment, et plus qu'on ne pourrait le supposer, ils tiennent et de manière désespérée à l'institution familiale. Car la tendance actuelle, en fait, qu'est-ce qui consolide la famille? Ce n'est pas le système autoritaire, c'est le système de consommation. Encore une fois, j'y reviens. Mais ce système de consommation entretient des formes de dépendance tout à fait nouvelles. Pensons à la dépendance à l'égard des parents. En principe, on devient indépendant quand on se marie. C'était le cas, ça n'a jamais été le cas. Mais c'est le cas maintenant, beaucoup moins qu'avant. Quand on se marie, le système économique maintenant d'accès à l'épargne, de diffusion prodigieuse et d'accès surtout à l'achat au crédit fait que très tôt, on rentre dans un système d'achat à crédit qui avant été réservé à une très petite couche de la société avec possibilité d'aide des parents et qui maintenant est quelque chose qui n'est pas général mais qui est extrêmement répandu. Or, qui amorce justement, qui donne l'élément qui permet aux jeunes couples par exemple d'acheter un appartement ou de commencer à s'équiper? Ce sont les parents. Et ça crée finalement cette dépendance économique, crée un climat de dépendance affective extrêmement fort. Je crois qu'il y a des rejets, les réactions des jeunes et des jeunes de milieux ouvriers qui mettent en cause l'ensemble du système, qui relient leur misère sociale, je veux dire, leurs problèmes de chômage et autres, à l'ensemble de la société, y compris à la famille, tient à ça, c'est qu'elle est plus forte que jamais. C'est qu'elle est plus forte que jamais et qu'elle elle atteint un seuil d'intolérance. Alors ce qu'on veut, ce n'est pas la détruire, c'est la rendre vivable. Ça montre qu'on y tient plus que jamais. Si on dit qu'il faut que la famille devienne égalitaire, c'est qu'on veut plus que jamais vivre en famille. Oui.
Cette reviviscence de la famille, c'est la remise en place du rapport qui existe entre les générations.
Mais je crois que c'est un élément important actuellement.
Oui, c'est justement parce que la famille conjugale est actuellement en crise qu'il y a cette reviviscence des rapports entre générations.
Par rapport à, dans le même sens, par rapport encore à ce phénomène communautaire, j'en ai signalé un aspect, il y en a un autre que je n'ai pas dit, mais qui me semble tout à fait essentiel. C'est en quoi nombre de communautés, loin d'inventer un modèle familial spécifique plus ou moins nouveau, celui un peu dont je parlais tout à l'heure, reproduisent, en fait, très très fortement, un certain nombre des caractéristiques attribuées à la famille monogamique traditionnelle. Et même, au-delà de les reproduire, les accentue avec une certaine forme d'archaïsme anti-société qui est extrêmement visible par rapport à cette question des enfants que je suis en train de découvrir à l'heure actuelle en étudiant ce phénomène des écoles parallèles, de l'attitude de cette population à l'égard de l'enfance. Ça me semble extrêmement frappant. Dans l'attitude première, qui est de création d'une école parallèle, c'est, on va retirer notre enfant à l'État pour le prendre nous, mais pour le prendre où, quoi? Dans la famille, quoi. Il s'agit très fortement de déscolariser l'enfant, c'est d'abord le désocialiser au sens de la société la plus globale pour le placer dans ce cadre familial, en général un peu élargi sous forme communautaire, et prendre en charge complètement cet enfant. C'est-à-dire qu'il y a un retour, en fait, très très fort à l'enfermement, enfin, dans un monde familial qu'on essaie effectivement de transformer un peu, de le rendre vivable, quitte à lui, mais avec très très fort cet aspect effectivement qui est de renforcer un certain nombre des caractéristiques, c'est-à-dire de désocialiser au sens de socialisation des forces productives, pourrait-on dire même. On désocialise au maximum. Ça me semble une tendance qui est très 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 marquée, ouais. Très forte, quoi, par rapport à tous les, c'est-à-dire par rapport à toutes les fonctions disparues de la famille du type, pour les fonctions de consommation de la famille. Certaines sont développées, d'autres sont en recul ou du moins se sont transformées. Par exemple, pour ce qui est de l'alimentation. L'alimentation où on achète et on fabrique peu dans la famille. Une tendance très forte de ce milieu communautaire, c'est de fabriquer tout dans la famille. Fabriquer autant qu'on peut, c'est-à-dire de recréer une autarcie économique, sociale, culturelle, affective, tout. Quoi. C'est-à-dire de replacer tout dans ce cadre familial. C'est-à-dire que, quand je parlais de ce phénomène communautaire, en y distinguant quelques aspects qui sont remis en cause de certains rôles, de certaines valeurs familiales, de certaines normes de comportement sexuel. Donc il y a cet aspect. Mais l'autre aspect qui me semble peut-être être l'aspect dominant, c'est cet aspect de, en fait, autour de quelque chose qui reproduit très largement sous des formes un peu modifiées la famille, la renforcer très très fort, essayer de lui restituer le maximum des fonctions qui se sont trouvées dépérées.
Mais cette désocialisation, elle va parfois très très loin. Maranda cite le cas de communautés américaines et canadiennes où les enfants ne sont plus déclarés à l'état civil, n'ont donc pas d'identité socialement reconnue, ne vont pas à l'école, n'apprennent pas à lire et à écrire sauf s'ils en expriment eux-mêmes le désir, ont une éducation qui est uniquement branchée sur l'apprentissage de la maîtrise du milieu naturel dans lequel ils vivent, la connaissance des plantes, la connaissance des animaux, la connaissance des techniques, mais ils n'ont pas d'identité. Ils n'existent pas. Et ça, c'est une tendance extrême, d'ailleurs, contre laquelle la société lutte énormément, parce qu'aucune société ne peut admettre ce genre de choses. De même qu'aucune société n'admet la revendication ultime féminine, qui est le refus de maternité.
Oui. Il y a une tendance aussi à l'autre bout, qui est d'atomisation complète d'individus. Il se retrouve un, tout seul. Ça me semble aussi un aspect tout à fait frappant, quoi, aussi dans cette population, ces jeunes qui sont seuls, et qu'on imagine mal... pouvoir réellement passer à un stade où il se marierait, c'est-à-dire recréer le traditionnel, ou bien pourrait même s'agréger à un groupe. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi, je pense, assez réelle à l'automisation. Ou bien peut-être aussi, et ça je change de plan complètement, si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis ou en Suède, quoi, cet aspect qui me semble assez singulier, où le taux de divorce est très très fort, bon, apparemment on se marie, d'accord, mais on divorce aussi beaucoup, on dit la famille continue parce que les gens se remarient, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe entre? Moi c'est la question que je pose, quoi. Qu'est-ce qui se passe entre les deux remariages, quoi? Et l'aspect des gens seuls, et je pense que ça aussi c'est relativement nouveau.
La solitude est un luxe, c'est-à-dire c'est une solution, ça pourrait être une solution merveilleuse dans une société qui vous prend en charge parfaitement, qui vous intègre. Il ne faut pas oublier que la raison essentielle dans toutes les sociétés, et dans la nôtre en particulier depuis longtemps, qui pousse les gens à fonder des familles, à se marier, c'est pour ne pas vivre seul. Et quand vous voyez le problème du célibat paysan, qui est actuellement un des drames du monde paysan, vous apercevez à quel point l'absence de famille et le fait de ne pas pouvoir se marier est un drame social extrêmement profond.
C'est
un célibat forcé.
Ça, je l'ai vu, par exemple, dans les Alpes.
C'est la raison essentielle qui pousse les paysans Provence. Hors de la campagne. C'est la femme qui fuit l'homme. C'est absolument évident. Et c'est un élément, la solitude, ici nous sommes, je ne sais pas, c'est pas si c'est une structure élémentaire de l'humanité, mais c'est quelque chose qui n'a qui n'a jamais été complètement assumée, l'homme n'arrive pas à vivre seul.
De toute façon, le célibat est en stagnation ou régression, si on regarde les indicateurs démographiques.
Mais le mariage est une façon de rompre la solitude. Mais
C'est une façon
parmi d'autres. Mais l'insertion dans un milieu, que ce soit par exemple des groupes de femmes qui vivent ensemble liées par des liens de filiation et de consanguinité, par exemple une mère et ses filles et leurs enfants, c'est une façon de rompre la solitude. De la même manière, l'insertion dans des familles étendues en Afrique est une façon de rompre la solitude. Le mariage n'est pas une donnée fondamentale de rupture de la solitude.
Il faut que la société vous propose d'autres formules.
C'est parce que le mariage a d'autres buts que celui-là. Je veux dire, on le met en avant dans notre société, le fait que c'est pour rompre la solitude qu'on cherche à se marier, parce qu'il n'y a pas d'autres formules qui sont proposées que celle-là.
Absolument.
Mais le mariage n'est pas la seule façon de rompre la solitude.
Boris Vian disait qu'il s'était marié pour avoir toujours une femme sous la main.
Oui. Je voudrais quand même revenir sur le problème de la solitude et notamment du célibat paysan. Ce qui est dramatique pour le paysan qui ne trouve pas de femme, ce n'est pas qu'il ne trouve pas d'épouse.
Oui.
Je veux dire, c'est simplement qu'il n'a pas de partenaire sexuel et qu'il a beaucoup de difficultés d'en trouver à cause des normes morales de la société et puis peut-être aussi de l'absence de femme. Et puis parce qu'encore une fois, la société condamne les unions sexuelles hors mariage, si vous voulez.
Oui, ça change quand même.
Ça semble un peu fictif.
Il n'y a pas la marmite qui est chaude. Et c'est encore une fois parce qu'il s'agit de la répartition sexuelle des tâches. C'est ça qui est fondamental. Le mariage n'est pas en soi une nécessité, ni biologique.
Le mariage, non, mais je crois que...
Ce qu'il faut, c'est avoir des partenaires sexuels et supprimer la répartition sexuelle des tâches.
Je crois que c'est une vision un peu schématique. Je connais un petit peu ce problème-là et je crois que c'est un problème important, le célibat paysan. C'est peut-être parce que la société, la micro-société, c'est-à-dire la communauté paysanne, a disparu, qui n'a pas d'autre société. Bon, c'est vrai. Mais ce célibat pourrait être guéri ni par, disons, une forme très disponible de partenaires sexuels provisoires, etc., ni par une redistribution des rôles qui ferait qu'on lui assurerait une cantine ou que lui pourrait résoudre le problème de sa marmite. Il faut une compagne. D'ailleurs, quand il n'a pas de compagne, il a un compagnon, c'est-à-dire que les frères célibataires continuent à vivre ensemble.
C'est bien parce que vous l'analysez en termes d'hommes.
Et je me permets, vous parlez toujours en termes d'hommes là-dedans. Vous dites toujours qu'il est important de se marier pour les hommes. Dans toutes les discussions qui ont eu lieu ici, enfin, que ce soit de la part des jeunes ouvriers ou des jeunes paysans, vous parlez toujours de la nécessité du mariage pour les hommes.
Ma pratique, ce qui me fait constater, c'est le nombre de femmes qui, après un divorce, pour pouvoir être, hein, c'est-à-dire finalement, et s'épanouissent, et deviennent, vous savez, la vieille dame indigne, ça existe, mais multiplié, enfin moi j'en connais des quantités, mais qui sont jeunes encore, et qui, pour pouvoir être, les femmes, à l'heure actuelle, ont rompu un lien affectif, parce qu'elles n'avaient pas trouvé le moyen de, n'est-ce pas, par rapport à toute la force de notre inconscient, de notre conditionnement, de devenir elles-mêmes et quelqu'un, si elle restait dans ce lien autorité-dépendance.
Est-ce que nous pourrions ce long débat qui n'a abordé dans le fond que certains éléments du dossier d'autrement, on dirait quelques éléments de conclusion. Moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est d'abord que la famille, le titre du numéro finit les familles avec un grand point d'interrogation. c'est un non catégorique. Bon, la famille, je suis d'accord avec Burger, tout nous prouve que la famille est très, très forte, très puissante, sous des formes différentes. Deuxièmement, que le moteur de l'évolution et des mutations, c'est les femmes. C'est très net. Nous avons deux invités. Nous sommes cinq, nous sommes deux invités femmes. Nous sommes un peu en majorité, mais ce sont les femmes, en effet, qui dominent. Très nettement dans le changement, avec deux demandes, deux exigences, qui sont d'une part, en effet, le travail salarié, d'autre part, la maîtrise de la reproduction, et qui débouchent sur une redistribution des rôles dans la famille et dans la société. Bon. Deuxièmement, les jeunes, bien entendu, qui ont, avec leur nouvelle... style de vie, commune et autres, jouent un rôle très important dans leur demande, par exemple, de plus de franchise dans les rapports, et d'accepter les conflits. Troisième conclusion qui me frappe aussi, c'est que le modèle conjugal est parfaitement solide, mais coexiste avec des tas d'autres modèles dont on a parlé tout à l'heure. Bon. Le mariage, on en a assez peu parlé, en tant que, est-ce que le mariage, on se marie toujours beaucoup, tous les indicateurs démographiques sont clairs.
Et plutôt qu'avant.
Et plutôt qu'avant. Mmh. Mais, semble-t-il, alors là, il faudrait rentrer dans les plus grands détails, il semblerait qu'au niveau des jeunes, on se marie parce qu'on ne peut pas faire autrement, ce que vous disiez tout à l'heure, et que tout pousse à se marier au niveau pratique, enfin, au niveau administratif.
crois que ça a toujours été comme ça.
Et ça a toujours été comme ça.
Les loyers sont trop chers par rapport au salaire aussi. Enfin.
Alors, dernier point de conclusion, on ne va pas faire de prospective, on n'a pas le temps, mais sur les différents scénarios possibles, avec la famille atomisée en petits morceaux, mère célibataire et autres, bon, ça semble un scénario peu vraisemblable. Une famille élargie très puissante face, dans le fond, au dépérissement de l'État, pour reprendre les termes de Burguière, c'est un scénario qui est envisageable, selon l'évolution de la société.
C'est le plan Orsec.
Le plan Orsec, exactement.
Un cas de cataclysme social.
Exactement. Alors peut-être troisième modèle, si on veut catégoriser de façon un peu arbitraire, cette famille, nouveau modèle, disons, qui serait non hiérarchisée, non ritualisée, plus symétrique. Là, je prends le terme d'un livre de Michael Young qui s'appelle The Symmetrical Family, qui vient de sortir en Angleterre. Alors, celle-là dépendra, je crois, beaucoup, en effet, de cette redistribution des rôles sexuels et de l'évolution, bien évidemment, de la société globale.
Le meilleur ou le pire?
Il y a un autre modèle, c'est celui de la famille matricentrée, dont il existe des exemples par le monde, et celui-là, il n'est pas à exclure non plus.
C'était Rencontre avec Simone If par Patrice Galbaud, avec également Françoise Héritier, André Burguière, Gérard Mauger et Henri Dougier. Première diffusion sur France Culture le 16 novembre 1975.